Voilà, bienvenue, hein, on se retrouve ensemble et devant la parole de Dieu, devant ce sujet que j'aimerais aborder assez simplement, aussi sans prétention, parce que le sujet évoque aussi des moments difficiles, faire face à la souffrance avec Dieu. Lorsque vous êtes hospitalisé, par exemple, on va vous demander quelque chose, c'est assez particulier, ça se fait déjà depuis quelques années, c'est de pouvoir évaluer votre douleur, sur une échelle de 0 à 10. On demande aux patients, on demande à ceux qui souffrent, justement, de se prononcer. Et puis, en fonction, on adapte le traitement en fonction aussi de votre besoin. Ce matin, dans cette échelle qui peut être de 0 à 10, comment estimez-vous peut-être vos souffrances ? Des éléments qui sont des repères, mais aussi des choses qui peuvent arriver avec contrainte, des souffrances imposées, on pourrait dire, des souffrances physiques causées par la maladie, par le deuil, la souffrance morale liée à peut-être des conflits familiaux, problèmes dans le couple ou eh bien dans la profession, le travail, perte d'emploi, chômage, souffrance aussi spirituelle, souffrance personnelle, souffrance aussi peut-être intime et cachée à cause d'un péché qui peut-être aussi nous fait souffrir. On pourrait ajouter à cela trois petits points parce que ça englobe tellement de choses. Alors, dans la souffrance, nous cherchons à nous raccrocher, me semble-t-il. Nous cherchons à nous raccrocher parce que c'est un certain flou et il est difficile d'interpréter, d'expliquer ce qu'on vit. Tout à l'heure, une sœur me disait, qui rédigeait son témoignage, il est difficile de mettre des mots en fait sur ce qu'on a pu endurer, vécu, etc. Et on voudrait choisir les bons mots parce qu'on voudrait être compris, on voudrait qu'on saisisse ce qui se passe. On a besoin de trouver des personnes qui nous comprennent, des modèles, hein, des éléments de repère dans nos souffrances. Parce qu'on est dans la tempête et dans le flou et c'est difficile de se raccrocher lorsque nous sommes dans ces moments-là. Alors j'aimerais introduire une lecture de deux textes qui situent un petit peu notre démarche. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Nous avons là une définition de repère. Nous avons là une définition d'éléments qui sont nécessaires. Nous avons besoin de modèles de souffrance. On a besoin de se raccrocher, c'est vrai, parce que c'est dur lorsque la tempête fait rage. Et c'est dur lorsque nous essayons de définir, comprendre pourquoi. Et ce pourquoi nous vivons, nous devons être confrontés nous aussi à ça. Ayant vécu parfois des souffrances incomprises, on se demande et pourquoi on doit le vivre. Et puis, assez souvent, on s'aperçoit que ce n'est pas réservé qu'aux autres. Ça devient aussi notre lot, à tous. Alors, on n'est pas forcément conscient de ça quand on est très très jeune, mais la vie, assez rapidement, nous force la main de pouvoir le comprendre. Alors, le premier point, j'aimerais soulever, pourquoi la souffrance ? Quelle question, imaginez ? Quelle question, et ça m'est arrivé aussi d'avoir mes pourquoi ? Et devant Dieu et d'être très chargé pour essayer d'y trouver, malgré tout, une correspondance ou une explication par soi-même. C'est très dur. C'est une question que beaucoup se posent, qu'on soit chrétien ou pas chrétien. Et si Dieu est bon et tout-puissant, et pourquoi la souffrance existe-t-elle ? Pourquoi il m'arrive ? Pourquoi moi qui suis chrétien, qui cherche à vivre une vie pieuse, qui cherche à plaire à Dieu, pourquoi moi aussi je dois être confronté à cette réalité-là ? On n'a pas forcément la réponse à tout. Et je voudrais me garder de vous donner peut-être l'impression d'avoir réponse à tout. À coup de verset, à coup d'explication. Puis vanité des vanités, tout est poursuite devant et vanité au fond. Mais la question ressort et rejaillit assez souvent. Et frères et sœurs, lorsque nous explorons la Bible, nous pouvons prendre connaissance de ce que dit la Bible sur la souffrance, que, semble-t-il, Dieu la permet. Et cependant, comment il peut devenir aussi un levier de transformation et d'espérance? Elle peut contribuer à quelque chose dont on n'en a pas forcément saisi l'ampleur au départ. Mais il s'avère que nous avons besoin d'aide. Et Dieu est à même de nous donner cette aide. Amen. Nous devons comprendre que la souffrance que nous vivons, je veux dire, au jour d'aujourd'hui, que nous subissons, nous endurons d'une manière quelle qu'elle soit, n'est pas le résultat personnel d'un péché ou d'un acte de désobéissance, dans le sens que si je souffre dans mon corps, Dieu n'est pas un Dieu qui est méchant à vouloir nous faire mal. Il y a bien des choses qui nous dépassent. Mais nous devons comprendre que lorsque le péché est entré dans le cœur d'Adam et de Ève, le péché l'a tout ravagé. Et on pourrait dire, à partir de là, malheureusement, à partir de là, tout a commencé. Et nous savons que la rédemption est en Jésus le moyen de nous sauver, sauver notre âme, nous sauver, nous préparer à la rencontre du grand Dieu créateur qui est saint et très haut, élevé dans la perfection. Et nous, nous sommes rabaissés souvent dans l'imperfection. Et Satan, c'est vrai, est une cause de souffrance, comme on le voit dans l'histoire de Job. Mais toutes les histoires ne s'expliquent pas avec l'histoire de Job non plus. Et c'est difficile que d'être mis dans des boîtes, dans des critères, dans des arguments qui sont vains au fond, parce que c'est notre interprétation que nous pouvons expliquer. Et c'est difficile d'expliquer les choses, comme c'est difficile de parler pour quelqu'un d'autre qui souffre et qu'on pourrait taxer peut-être d'en faire peut-être un peu trop. J'exagère, hein. Mais c'est vrai que parfois aussi, ça peut être nos choix et nos torts et nos péchés qui nous amènent à souffrir. Dans le moment présent, ça aurait pu être une opportunité de se dire, oui, je peux faire ce que je veux, je peux vivre à la manière que je veux, mais un jour fera qu'on risquerait d'en pleurer et d'en avoir très mal. Alors, j'aimerais dire dans ce premier point, ce pourquoi, tout simplement apprenons encore, parce que nous apprenons et sans cesse, n'est-ce pas, à nous confier en Dieu et à nous remettre à sa grâce. Lorsqu'il avait été dit à Paul, lui qui cherchait à comprendre, alors qu'il était lui serviteur de Dieu, le Seigneur lui a répondu, hein, il a eu cette parole et vous savez que on peut noter quand même au moins deux fois où Dieu, le Seigneur, lui a parlé. C'est quand il a persécuté, « Qui es-tu ? Je suis Jésus que tu persécutes. » Et puis quand il a interrogé le Seigneur, le Seigneur lui a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Amen. On continue. Deuxième point qu'on pourrait soulever, c'est que Dieu souffre avec nous. Dieu n'est pas indifférent, bien loin de là. Dieu est omniprésent, omniscient, c'est tout, et omnipotent, il peut tout. Contrairement à l'image du Dieu lointain, absent, et aux abonnés absents, comme on pourrait dire parfois, Dieu est toujours présent. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Lorsque nous l'avons choisi comme notre Dieu, et lorsque nous l'avons déclaré, nous avons cru en Christ, c'est Christ qui nous donne ce Dieu qui est avec nous. Amen. Oui, Ésaïe 66, verset 2 dit, « Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. » Amen. Merci Seigneur pour de tels textes, hein, c'est vrai, hein. C'est un texte qui nous révèle la compassion et l'attention particulière de Dieu, n'est-ce pas? De Dieu pour les humbles, ceux qui souffrent et qui sont brisés et qui n'ont pas forcément besoin de faire connaître tout ce qu'ils vivent et subissent, mais qui cependant le vivent. C'est un Dieu qui ne méprise pas, qui ne néglige pas les affligés. Merci Seigneur. Un autre texte très évocateur parce que il se prononce dans l'Exode, mais viendra et se confirme en Christ lorsqu'il est dit du peuple. Et Dieu dit à Moïse, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance que mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que leur font pousser ses oppresseurs et je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Amen. Nous pouvons voir là, dans une globalité, qu'il y a un plan au travers de la souffrance, au travers des difficultés que nous pouvons vivre et subir, d'une manière quelle qu'elle soit, c'est de se rappeler qu'avant toute chose, Dieu, il voit, il entend, et il est actif face à la souffrance de son peuple. Donc c'est dire dans le détail, c'est pas une vue globale, mais c'est une vue personnelle, intime. Merci Seigneur, c'est bon de le connaître. C'est le contexte de la libération d'Égypte, de Pharaon, hein, l'image souvent dans ce parallèle qui est l'image du malin, du diable, de l'ennemi, celui qui vient pour nuire à notre équilibre et notre bien-être, celui qui voudrait nous donner de manquer le but. On peut atteindre le but, oui, par l'obéissance, mais au travers de la souffrance, dans ce processus qui peut être très long et difficile. Et Dieu est un Dieu qui intervient. Et on peut le prendre par là comme un tremplin, d'une certaine manière, ou le point culminant, la clé, on pourrait dire aussi, de la compréhension chrétienne de la souffrance, c'est de se rappeler de la venue de Jésus. Lorsque Dieu dit « Je suis descendu pour le délivrer », il est venu, il a vu, il a entendu, il connaît. Et l'incarnation de Jésus, c'est de venir dans une chair semblable à la nôtre. Jésus est venu lui-même en personne. Il est venu et tout ce qui s'est passé du temps de l'Égypte, et lorsque Dieu parle, nous donne à définir et à voir que dans l'histoire, c'est ce que Dieu a fait en Jésus. Il est venu lui-même. Dieu se contente pas de voir, mais de prendre la souffrance sur lui. Puissions-nous encore le réaliser, le serrer sur nos cœurs, nous qui avons peut-être un lot difficile, particulier, disant que Jésus a pris notre souffrance sur lui. Hein. Il va revêtir notre nature humaine, mais c'est pas simplement venir dans une enveloppe telle que la nôtre, et qui, cette enveloppe, a son lot aussi de souffrance, cette tente, comme dit aussi l'apôtre Paul, mais il est dit de lui qu'il est l'homme de douleur et habitué à la souffrance. Donc il y avait une particularité chez lui, c'est qu'il portait vraiment lourd. Et il a porté très très lourd au bois du calvaire. Et toute sa vue de Jésus a été dans cet objectif-là. C'est ça qui est déconcertant, c'est qu'il savait qu'il devait souffrir. Et il y est allé quand même. Si on met la main sur la plaque de cuisson qui est un peu chaude, puis on veut voir si ça fait bien ou pas bien, ben on sait que voilà, ça fait mal, mais Jésus y est allé volontairement, plus qu'une plaque. Hein. Il est allé pour donner sa vie et souffrir. Jésus n'a commis aucun péché en plus. Il a accepté d'être rendu semblable à nous, de prendre le péché de l'humanité, qui commence par Adam et Ève, et de se mêler, je ne sais pas pour vous, hein, mais de se mêler à tout ce que nous étions, lui-même et sans péché. Il a accepté de revenir. Imaginez, vous arrivez dans une famille qui ne soit pas du tout fréquentable. C'est la famille, on pourrait dire, de la catastrophe, de l'horreur. Et puis, c'est compliqué, vous voyez toute une ambiance, une manière d'être et de vivre, ça vous répugne, c'est pas du tout la manière que vous vivez. Et puis, vous arrivez à devenir les amis de cette famille-là qui, au départ, vous répugnaient. Mais Jésus est venu. Il est venu. Vous croyez que nos péchés lui faisaient plaisir? Croyez que notre indifférence lui faisait plaisir? Croyez que nos torts, nos problèmes de relation, peut-être nos problèmes avec notre voisin, notre patron, avec peut-être des frères, des sœurs, croyez que ça lui faisait plaisir, ça? Il a tout porté au bois du calvaire. Et il a tout pris. Il a tout pris sur ses épaules. La souffrance de Jésus, on pourrait résumer à dire, elle a été aussi physique, elle a connu la faim, la soif, la fatigue, pas la maladie, mais et sa souffrance a été morale, elle a connu le mépris, la médisance, le reniement, la jalousie, la haine, etc. Sa souffrance a été spirituelle, il a pleuré sur Jérusalem, il a dû reprendre les religieux et les disciples semblaient parfois ne pas comprendre. Sa souffrance a été aussi d'être séparé d'avec son Père à la croix. On pourrait dire qu'il a été dans l'excellence de la souffrance pour chacune de nos vies. Lui qui n'avait pas de problème. La croix est la plus grande preuve d'amour. Il a choisi d'endurer l'injustice, la douleur, la mort par amour pour nous. Que cet amour puisse nous être encore renouvelé ce matin. Puissions prendre notre part à cet amour infaillible, à cet amour tout-puissant, merveilleux et digne aussi de reconnaissance. Amen. Troisième chose, j'aimerais soulever, frères et sœurs, c'est aussi que la souffrance est une école. Et nous apprenons, Et nous apprenons toujours les uns des autres. C'est ça la richesse du corps de Christ. Parce qu'on ne peut pas dire que tous les membres sont d'être indifférents des membres. Mais on est un corps, on est membres les uns des autres. Et merci Seigneur, parce que c'est une école et nous apprenons. Un jour, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je vais me répéter des fois. Faites preuve d'indulgence. Ou de faire comme si vous ne l'aviez jamais entendu. Un jour, entre collègues pasteurs me disent, on est à plusieurs et puis ils disent... C'est quoi votre succès dans le ministère ? Oh, je dis ça, cette question-là ne me plaît pas, moi. Alors j'attends mon tour, patiemment. Je dis, vous allez voir. Et puis la question me vient, alors oui, moi, ça a été ça ou ça. Mais je dis, moi, ma réussite dans le ministère, c'est d'apprendre aux côtés des frères et des sœurs. Rien. Rien de plus, rien de moins. Mais l'école, elle est là, frères et sœurs. On apprend et on voit. On voit la grâce de Dieu, c'est sûr. Et donc, merci Seigneur. Alors je dirais, c'est une école, mais permettez l'image. Ce n'est pas une école élémentaire, mais c'est une classe supérieure. On va dire pourtant, la souffrance, on n'a pas demandé. Mais le Seigneur sait nous apprendre. Un enfant de Dieu finit toujours par apprendre de la part de son maître. Et la Bible nous dit dans Hébreux 5, 7 et 8, entre autres, une partie, Jésus a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Amen. Cet apprentissage s'est fait dans la douleur, dans les larmes, dans le résultat qui est devenu glorieux. C'est nous dire dans l'école supérieure, dans le sens que, en fait, elle n'est pas pour peu de choses ou d'une manière basique et banale. Sur des choses rudimentaires. Mais elle a pour but de nous emmener plus haut, frères et sœurs. Elle a pour but de nous emmener à contempler et à voir l'intervention de Dieu dans nos vies. C'est certainement une classe supérieure dans le sens que le Seigneur veut nous enseigner les principes de son royaume. Il est capable de nous enseigner. Alors que ce soit, cette question arrivera tôt ou tard dans notre esprit, qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre, quel enseignement en tirer, qu'est-ce que le Seigneur veut me dire. Dans la souffrance, lorsqu'elle est notre quotidien, nous savons qu'il n'y a pas d'enfantement sans douleur, et pourtant, elles désirent toutes devenir mère un jour. Mais la douleur devra engendrer et amener le résultat. La joie de tenir un enfant dans ses bras, le fruit des entrailles, un enfant à qui la femme a pu donner la vie, c'est toujours admirable. Et Paul disait aux Corinthiens, nos légères afflictions du moment produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Je vous disais, c'est bien supérieur que ce qu'on peut définir. La souffrance qui conduit à la maturité en Christ, c'est des jours... certainement est toujours trop long, n'est-ce pas ? La souffrance qui peut être d'un court instant, mais c'est toujours trop long, je veux dire, comme au travers de quelques mois et des années, des décennies parfois. La parole de Dieu nous donne un élément de repère dans tout ça. Après, vous aurez souffert un peu de temps, Jésus-Christ vous perfectionnera lui-même, vous fortifiera, vous affermira, vous rendra inébranlable. Amen. Que ça puisse être parole pour tous, parole dans des moments qui peuvent être particulièrement éprouvants, usants, pénibles à traverser. On a un peu plus et toujours besoin de compassion. On ne pourra jamais taxer d'avoir donné trop de compassion, je ne pense pas, de considération. Mais on a besoin de mieux comprendre peut-être et pas avoir notre explication toute faite, mais de prier. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Je pense à l'exemple de Joseph, une souffrance incroyable que d'avoir été jeté par ses propres frères dans une citerne. Incroyable que d'avoir été jugé, mal jugé, pour ce qu'il n'avait même pas fait. C'est incroyable que d'avoir été pris dans des pièges de la séduction, la femme de Potiphar, de s'en défaire, et puis que tout cela vienne au fruit de son obéissance, de faire comme s'il était comme les autres, etc., etc., parce qu'il y a de quoi d'étudier sur tout ça. De voir que sa vie a été utile dans une génération et pour tout un peuple. C'est ça l'aboutissement. C'est ça la classe, je vous disais, hein, avec ma manière de vous le présenter, la classe supérieure dans le sens où le Seigneur s'est servi de lui. Hein. Anne, avec Samuel, qui aurait voulu être à sa place. Venir dans le temple, pas se sentir comprise, à la maison, de ne pas être comprise, dans ce qu'elle ressent, de se sentir en défaut et d'être complètement décalée avec la réalité. Elle a appris à prier, à jeûner, à écouter le Seigneur. Et le résultat de ses souffrances a été l'effusion du Saint-Esprit et elle va pouvoir enfanter cet enfant promis, cet enfant que Dieu va lui donner. Hein, Dieu a exaucé Samuel, hein. S'est mise à prophétiser au vu de l'exaucement de sa prière à naissance de Samuel. Alors on pourrait retenir peut-être que cette partie finale, mais ça c'est son histoire. Et merci Seigneur, parce que Samuel deviendra un prophète, un instrument dans sa génération pour le bien du peuple, c'est extraordinaire. Alors je termine notre attitude face à la souffrance. Surtout, rappelons-nous, frères et sœurs, que nous ne devons pas oublier que le Seigneur a tout sous son contrôle. On devra réaliser que parfois on perd pied, ça c'est sûr. On perd le contrôle, on perd la mainmise, on perd l'explication des choses, c'est vrai. Mais il était dit de Job, de cette attitude de foi dans la souffrance, durant toute sa maladie. Et même si ses amis étaient restés 7 jours au début à se taire, faut voir ce qu'ils lui ont dit après. Hein. Hein, y en a, ils rattrapent, ils reprennent la main. Hein. Et bon, avec de belles choses, c'est vrai, qui ont été dites, mais qui n'étaient certainement pas au bon moment, dans le bon contexte, comme il aurait fallu, peut-être, dans la forme. Mais quand vous voyez Job à la fin dans ce vis-à-vis avec Dieu, et il dit à Dieu, à un moment donné, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. On a l'impression qu'il est laminé, mais laminé, il n'y a rien d'autre à faire, c'est plus possible. Il est peut-être sur le fil, au bout du bout, on pourrait dire. Mais là, dans cette relation avec Dieu, et Dieu va le restaurer après qu'il eut prié pour ses amis. Il y avait un aboutissement qui devait avoir lieu. Et dans sa piété personnelle, dans son évolution personnelle, il devait aller plus haut encore. Peut-être que ses amis, il avait quoi d'avoir une dent contre eux, hein ? Une dent sur pivot, hein ? Parce que ça pivotait dans tous les angles de vue, hein ? Eh bien, quand je vais pouvoir, je vais leur servir un truc quand ça ira mieux. Et le Seigneur, il a dit, mais tu vas prier pour eux. Quoi ? Et il a prié pour eux. Et Dieu a fait vraiment au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, hein, dans de telles circonstances. Et la consolation, c'est de voir qu'il a passé une fin de vie heureuse. Dieu lui a donné de retrouver. Ouais, ça m'émerveille encore de réaliser tout ça. Et ça rejoint un peu les propos de Paul qui qui le dit dans Colossiens, chapitre 1er, verset 24. Il dit « Je me réjouis maintenant de mes souffrances pour vous ». Et si Paul l'a dit, on le comprend par Jésus, en fait. Par Jésus, on comprend que voilà, Jésus a subi toute souffrance pour nous. Heureusement qu'on l'a, Jésus. Amen. Heureusement qu'on l'a. Et en conclusion, je dis, frères et sœurs, que ce n'est pas la souffrance qui a le dernier mot. C'est le Seigneur. Quelles qu'en soient nos vies et l'explication qu'on devra essayer de trouver, mais qu'on devra cheminer, il reviendra pour nous chercher, pour être au ciel avec lui. Et quand le peuple de Dieu entrera dans le ciel de gloire pour l'éternité, après les premières choses que fera notre bien-aimé Seigneur, c'est qu'il essuiera toute larme. De leurs yeux, il n'aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, etc. Car les premières choses ont passé. Alors, le Seigneur n'est pas indifférent à nos souffrances, quelles qu'elles soient. Parce qu'on ne peut pas faire une seule case et tout mettre dedans. Il y a des choses qui sont vraiment très différentes. Mais Dieu le connaît parce qu'il l'a vu. Et le peuple en Égypte a été connu, c'était le peuple de Dieu. Et lorsque nous sommes ses enfants, lorsque nous avons fait alliance en Jésus, nous savons aussi que Dieu voit et Dieu même s'est souvenu de Noé. Tu es perdu dans les océans, perdu au milieu du déluge. Et Dieu s'est souvenu et a toujours accompli sa parole en son temps. Je termine avec un texte dans Romains 8, 18, qui nous donne cette perspective de cette classe au-dessus, de ces éléments au-dessus de tout entendement. Paul dit aux Romains, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées. Ça, c'est pour les enfants de Dieu. Ça ne peut pas trouver d'explication pour, malheureusement, les gens de ce siècle. Mais la gloire, lorsqu'elle sera révélée en Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Que Dieu fasse son œuvre et assiste tout à chacun au nom de Jésus. Amen. Nous te rendons grâce, Seigneur, ce matin. Nous t'honorons du privilège et de la part que nous avons autour de ta parole. Oui, ta parole est pleine de richesses, d'éléments de repère, d'éléments d'édification. Et Seigneur, pour nous affermir et nous porter et nous entraîner, Seigneur, malgré tout. Oui, nous entraîner à ta suite et nous entraîner, Seigneur, à te voir, te connaître et te contempler. Seigneur, nous prions, oui, il est vrai, pour ceux qui souffrent d'une manière et d'une autre. Et Seigneur, quelles que soient les causes, l'origine, c'est pas ça le plus important. Nous te prions d'être là pour en mettre le baume, en mettre le secours, en mettre la main, Seigneur. Tu es Dieu de toute grâce excellente. Il est bon de t'avoir, il est bon de te savoir aux côtés de tous. Parce que Seigneur, comme ta parole nous le dit et nous le rappelle, tu ne manques pas, Seigneur, d'être là. Merci de témoigner encore de ta fidélité, de ta bonté, Seigneur, à l'égard de tous, quand bien même le silence se ferait entendre, un murmure doux et léger, comme cela l'a été pour Élie. Seigneur, il a pu comprendre que tu es là, Seigneur. Oh, merci, seule ta présence pour nous aider et nous maintenir, et ta parole pour nous entretenir, nous édifier. Seigneur, en toute chose, sois pleinement honoré, glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.